jeudi. Nous sommes jeudi, les jeudis de l'économie.
Et avec plaisir, on reçoit chaque semaine une entreprise, des entrepreneurs. Et aujourd'hui, je suis très, très heureuse de vous recevoir. Direction Boin, un polder, celui des champs. Une entreprise s'est construite, a grandi au fil des ans pour devenir leader mondial de son secteur, leader en fourniture de Nessin d'huîtres creuses. On reçoit aujourd'hui le fondateur et président de France Nessin et sa directrice générale, Stéphane Angery, Laurence Bayer-Rousseau. Bienvenue et bonjour.
Bonjour,
merci. Bonjour à toutes et à tous.
Alors on va découvrir voilà, l'entreprise, comment elle est née, comment elle a grandi. Entreprise mécène de 9FM, je le précise au passage. Hein. Tout a commencé tout à fait par hasard. Alors là, je cite l'historique présenté sur francenessin.com. Votre passion, en tout cas Stéphane Angery, a débuté par hasard auprès d'un ostréiculteur de Beauvoir-sur-Mer il y a à peu près 40 ans. Bientôt 40 ans.
Oui, effectivement, c'est exact. Voilà, il y a, à la sortie de mes quelques études de comptabilité, j'étais à la recherche d'un emploi. Et donc, un ostréiculteur m'a embauché, m'a fait confiance et m'a donné envie de m'investir dans ce métier.
Vous rentrez par la porte administrative, la comptabilité ?
Oui, tout à fait.
Et vous allez sortir par la porte technique,
De production sur l'huître creuse aujourd'hui.
Ce qui n'était pas du tout votre ambition à l'origine, en fait, ni votre idée.
Non, pas du tout. C'est effectivement, comme vous l'avez dit, très bien dit, c'est arrivé tout à fait par hasard. Et je me suis prêté au jeu une fois après avoir goûté à ce métier. Qui m'a passionné au fil des semaines, des mois et des années.
Donc assez vite, vous allez vous installer à votre compte, en tout cas dans les années 90, avec assez vite aussi la construction d'une première écloserie déjà à Boin.
Oui, c'est ça, une première écloserie à Boin en 1993. Voilà, parce que je avec mon associé, avec lequel je m'étais associé en 1990, nous avions une vision de l'ostréiculture un peu différente de tout le monde. Et nous pensions que, effectivement, offrir une deuxième source d'approvisionnement aux ostréiculteurs devenait évident à cette époque. On a bien pu constater les aléas de la nature, les mortalités, l'environnement qui changeait. Et cette deuxième source d'approvisionnement qui était l'écloserie, à notre avis, devenait indispensable.
En tout cas, il y avait un côté pionnier. Hein.
Et effectivement, il y avait un côté pionnier. Même si cela déjà existait sur d'autres espèces, enfin l'écloserie à proprement dit, mais surtout il y avait une grosse vision claire et précise à ce sujet.
Et vous comprenez aussi assez rapidement l'importance de la recherche, hein, de la sélection pour, vous le dites, hein, proposer un produit qui soit résistant. Il y a des vagues comme ça plus ou moins régulières de surmortalité. Depuis la création de l'entreprise, voilà, la recherche a été importante et même depuis un peu plus de 10 ans, je crois que vous avez même un service aujourd'hui, un recherche et développement.
Oui, tout à fait. Aujourd'hui, nous avons deux personnes à plein temps. Qui travaillent sur la recherche et le développement, parce que effectivement, j'ai envie de dire malheureusement, notre espèce est confrontée à l'environnement qui se dégrade, à l'émergence de nouveaux pathogènes, de nouvelles maladies. Et notre travail aujourd'hui pour nos clients, c'est de leur offrir un produit, un essaim d'huîtres le plus résistant possible aux maladies et au stress de l'environnement. Et donc, notre travail, c'est d'aller chercher des gènes d'intérêt dans la nature pour offrir des naissins sélectionnés et résistants aux pathogènes.
Et donc, on va reprendre le mode chronologique. Vous avez donc vraiment une idée qui a bien fonctionné. En 2000, vous créez d'abord Vendée Naissin. Et en 2004, c'est France Naissin. Donc, le groupe, c'est une évolution qui a été presque obligatoire, nécessaire en tout cas.
Oui, alors effectivement, j'ai créé Vendée Naissin en 1999 et on a été un peu victime de notre succès. Et donc en 2004, nous avons été obligés de créer France Naissin parce que à ce moment-là, justement victime de notre succès, on nous demandait davantage d'huîtres, de plus en plus, qu'on n'était pas capable d'offrir à cette époque, puisqu'on n'avait pas encore les capacités de production nécessaires pour répondre aux besoins. Et donc, en fin de compte, nous rachetions des produits un peu plus gros qui avaient été achetés par nos clients pour les revendre à d'autres clients, ce qu'on appelait à l'époque du pré-grossissement. Et cette technique d'achat-revente, qu'on appelle du négoce, était limité dans une société comme était la SCE à Vendée-Nessin, une société agricole. Donc nous avons été obligés de créer une société de commercialisation pour faire de l'achat-revente et du négoce.
Chaque décennie, voilà, une nouvelle évolution, voilà. un nouveau métier aussi presque. En 2000, la société emploie 6 personnes. Aujourd'hui, vous êtes combien à France-Nessin?
Alors aujourd'hui, c'est environ 120 collaborateurs, collaboratrices.
On a multiplié par un grand nombre. dont Laurence Bayer-Rousseau, on s'est déjà rencontré, notamment dans des reportages au sein de l'entreprise. Alors vous êtes arrivé quand à France-Nessin?
Alors, je suis arrivée à la fonction de directrice générale en 2017. Et en fait, avant, j'accompagnais déjà France-Nessin depuis plus d'une dizaine d'années. Et donc, j'ai suivi l'évolution puisque j'ai commencé à travailler avec M. Angery en 2004, déjà sur des questionnements sociaux.
À l'époque, vous étiez issue du monde ostréicole ou pas du tout?
Pas du tout. Alors, j'ai quand même des origines agricoles, puisque mon père travaillait dans l'agriculture, mais pas du tout. J'ai pas mal baroudé dans le conseil, en stratégie et en organisation et ressources humaines. C'est ma formation, d'ailleurs, à la base. Donc, j'ai travaillé pour beaucoup de secteurs, beaucoup d'activités, dont, effectivement, l'activité ostréicole. Et ça me l'a amené à prendre, à intégrer l'entreprise en 2017.
Vous avez aussi effectivement besoin de professionnels. Je ne vous ai pas demandé l'origine effectivement familiale. Vous êtes né ici, Stéphane?
Pas du tout.
Pas du tout.
Je suis né à Nantes.
Nantais.
J'étais pas du tout destiné, effectivement, au départ, à faire des huîtres.
Donc on voit, voilà, c'est un parcours de vie qui vous a amené ici, puis vous avez eu effectivement ce néfin. Retour à l'histoire de l'entreprise, avec ce temps fort quand même important, c'est le cœur de métier, la première production de Nessin d'huîtres triploïdes en 2001. On va expliquer un petit peu, puisque voilà, votre métier, vous produisez, vous commercialisez, vous exportez ces Nessins d'huîtres, qu'ils soient diploïdes et triploïdes. On peut expliquer la distinction entre les deux et ce qui fait la nature de ces huîtres?
Alors, en fin de compte, entre la diploïde et la triploïde, donc la diploïde, c'est un organisme qui a deux paires de chromosomes, qui a des paires de chromosomes en nombre pair, et la triploïde, c'est un organisme qui a des paires de chromosomes en nombre impair. Et la particularité d'avoir un nombre impair de chromosomes, ça rend l'organisme stérile.
Donc, et alors l'intérêt?
À partir de là, aujourd'hui, et depuis maintenant une bonne vingtaine d'années, donc nous produisons des huîtres stériles qui ne sont pas laiteuses. Pour les connaisseurs qui ont l'habitude de manger des huîtres, cette laitance qui peut être pas difficile à manger, à voir et à manger. Et donc ça donne aussi un produit assez inconstant dans l'année sur sa qualité, alors que la triploïde est un produit qui va avoir la même qualité toute l'année de par le fait qu'elle ne se reproduit pas.
Et comment on en est arrivé à avoir ce choix aussi de cette sélection-là? En fait, c'est au fil des ans de recherche, de travaux?
Alors oui, bien sûr, c'est au fil de quelques décennies de recherche, d'avancées scientifiques, et on a pu s'apercevoir que cette huître triploïde, elle existe en fin de compte dans la nature.
Oui,
elle existe naturellement.
En préparant l'émission, là, j'ai préparé une question sur le fait qu'elle avait été modifiée. Vous m'avez répondu, non, mais elle existe à l'origine. Hein. Ça n'a pas été une création de l'homme.
Voilà, c'est un phénomène naturel qui se passe dans la nature. Et certes, en quantité assez infime, mais cela existe. Et donc, du coup, des scientifiques ont décidé d'aller piocher ce qui se passait justement dans la nature au travers de cette huître un peu particulière, et en fin de compte, à terme, d'en faire une production réalisable en écloserie. Donc au fil du temps, les chercheurs et nous, on est arrivés en même temps, à ce moment-là, pour travailler également avec eux et accompagner le produit et ensuite le produire à une échelle commerciale.
Et effectivement, l'intérêt, on l'entend donc pour le consommateur qui n'aime pas trop les huîtres laiteuses, qui peut avoir une bonne huître tout au long de l'année, c'est ça notamment?
Voilà, tout à fait. Alors effectivement, et on le constate là depuis maintenant une petite dizaine d'années, les ventes d'été explosent, car cette huître, elle est plébiscitée par le consommateur, notamment à une période estivale où les gens sont en vacances, les gens se retrouvent en famille, en copains, entre amis, de manière très conviviale. Et effectivement, ce type de produit est très très approprié à ce type de rencontre.
Et donc c'est aussi intéressant évidemment pour les ostréiculteurs dont le travail est peut-être un petit peu moins saisonnier, j'imagine.
Alors effectivement aussi, c'est important de le dire, vous avez raison, c'est que avant la triploïde, l'huître était principalement vendue à Noël. Donc la plupart des ostréiculteurs faisaient leur chiffre d'affaires en l'espace d'un mois seulement. Environ 70-80% de leur chiffre d'affaires était fait au mois de décembre. Donc en créant cette nouvelle production d'huîtres triploïdes, ça a permis de vendre des huîtres du coup 12 mois sur 12.
12 mois, oui.
Et du coup, de répartir un peu mieux le chiffre d'affaires et prendre un peu moins de risques pour la profession.
Voilà, c'est une belle évolution qui date donc de peu, hein, 20 ans, un peu plus de 20 ans maintenant. On va poursuivre dans quelques minutes la présentation de France Naissin avec voilà, son aura internationale, parce que vous avez quand même pas mal de destinations qui sont intéressées, hein, par votre production, l'infrastructure qui évolue, les recrutements aussi en vue. Et très très bientôt d'ailleurs, on en parlait ce matin avec Pôle emploi, on va en reparler dans 3 minutes.
Juste après la nouveauté, le retour de Yannick Noah sur Neuve.
J'ai parcouru tant de chemins, de villes sans lendemain, de pays tristes à pleurer, exploré tant de fausses pistes, de provinces conformistes, de continents prêts à porter, et tout ce temps passé à te rechercher sur les terres reculées du monde entier. Foguer sur des mers pas très claires, je t'ai cherché même au-delà de mon futur, de mes pas. Ce que je cherchais, je ne le savais pas. Combien de temps perdu, de fuites éperdues pour arriver.
Africa, il est de retour avec ce titre, un nouvel album, patience, hein, c'est pour la rentrée prochaine. C'est un avant-goût donc, le tout dernier Yannick Noah sur Neuve. Jusqu'à 13h la suite, les rendez-vous de midi, le jeudi, les jeudis de l'économie, Emmanuel.
Et on parle de France Naissin, entreprise donc locale au rayonnement international. Vous êtes basé, Stéphane Angery et Laurence Bayer-Rousseau, donc président et directrice générale à Bouin, au pôle d'Heure des Champs. C'est un site qui est évidemment stratégique et qui répond à plusieurs besoins en fait. Il n'a pas été choisi par hasard, ce pôle d'air.
Alors, effectivement, c'est un pôle d'air d'abord qui historiquement était dédié à l'agriculture. Il s'est avéré que les terrains n'étaient pas non plus très excellents pour l'agriculture. Donc à l'époque, le maire de Bouin monsieur Raoul Pelotte, a décidé de le dédier à l'aquaculture, à la conchyliculture. Et effectivement, aujourd'hui, et au fil des décennies, c'est un site qui est exceptionnel, de par le fait qu'il y a une nappe d'eau souterraine salée qui est très très riche en éléments nutritifs, et qui est ces éléments nutritifs qui sont une condition sine qua non pour produire des microalgues, ce qui nourrit les huîtres, les naissins et les huîtres.
Et ça, c'est important pour vous, c'est un point fort dans la présentation et dans la commercialisation du produit, son origine.
C'est un point évidemment fort, puisque finalement aujourd'hui, si on dépasse le cadre de France Naissin, l'ensemble des écloseurs, ou la majorité des écloseurs, on va dire français, sont présents sur ce polder. Et aujourd'hui, le naissin d'huître est considéré comme une filière d'excellence à la française, ce qui nous vaut d'être assez unique dans le modèle français au niveau international. Ce qui fait que les écloseries françaises sont présentes dans beaucoup de pays du monde, en tout cas partout où la France peut exporter ses naissins d'huître.
Et on vous retrouve donc effectivement avec donc une clientèle d'ostréiculteurs en France, en Vendée et bien ailleurs.
Bien ailleurs. Alors évidemment, et d'abord et avant tout sur l'ensemble du littoral français, c'est important, puisque si le naissin est une valeur sûre, la production française est aussi une filière d'excellence. Et c'est important d'y contribuer, puisque finalement le naissin, enfin l'huître, elle passe 15% de sa vie en écloserie. Après, c'est le miroir et le savoir-faire de nos clients qui fait la qualité de la production française.
Bien sûr.
Mais on exporte aussi effectivement sur à peu près une vingtaine de destinations à l'international, aussi bien en Europe, mais aussi vers des destinations plus ou moins exotiques.
Par exemple.
Par exemple.
Les plus exotiques.
Singapour, Dubaï, mais aussi l'île Maurice,
la Nouvelle-Calédonie.
Et
bien d'autres.
Et bien d'autres à venir. À venir, parce qu'il y a quand même pas mal de projets. On va en parler des projets. Bah justement, voilà, les grands temps forts, quand on regarde l'historique sur votre site francenaissin.com, il n'y a quasiment pas une année où un nouveau projet est lancé. Alors, on est en 2022. Les grands projets à venir, quels sont-ils?
Alors, évidemment, aujourd'hui, les grands projets à venir, c'est toujours de continuer à développer les nurseries, nos capacités de production, puisque la demande est toujours aussi importante, en quantité, en qualité, avec des produits un peu différents. Donc cela nécessite des outils de production très importants. Donc on doit continuer à se développer dans ce sens. Mais également, on fait aussi un peu de croissance externe, c'est-à-dire en rachetant un peu des entreprises dans différents bassins pour être plus près de nos clients, travailler davantage en proximité avec eux et aussi occasionner un peu moins de stress aux huîtres en les produisant sur place.
Donc par exemple, sur quel type de site on peut vous retrouver à l'extérieur?
On peut nous retrouver aujourd'hui sur la Normandie, où on a une entité sur les plages du débarquement, voilà, qui produit plutôt du pré-grossissement. Et donc idéalement, c'est de produire local et d'expédier plutôt local. Et puis on est en phase de croissance externe sur la Méditerranée aujourd'hui. Alors vous avez un peu la primeur, hein, puisque c'est en cours.
D'accord.
Quelque chose qui devrait démarrer maintenant au mois de juin. Et là aussi, ça a un effet vertueux, puisqu'en définitive, c'est important, l'empreinte locale, territoriale, pour nous, parce qu'on vend un produit de terroir. Et au-delà du bien-être animal qui est prédominant, puisque le bien-être animal produit la qualité aussi du produit, j'ai envie de dire aussi que l'idée, effectivement, c'est de créer des liens privilégiés avec les ostréiculteurs sur chacun des bassins.
Et donc c'est imminent pour cette évolution. Alors il nous reste 3 minutes, donc j'avais plein de questions sur le site qui a grandi, etc. Mais quand même, on va rester sur l'humain. Un recrutement qui est annoncé, qui est extrêmement régulier. On en a parlé ce matin avec Pôle emploi de Chaland. D'ailleurs, vous pouvez aller sur la page Facebook de Neuve et vous avez plein d'informations. Le 30 mai, vous proposez un rendez-vous alors de MRS, toujours une méthode de recrutement par simulation. On en parle depuis des années avec vous. Vous êtes un des pionniers de cette méthode. On va pouvoir venir, donc sur inscription évidemment, mais sans CV, parce que c'est pas le sujet n'est pas l'expérience du candidat.
Tout à fait. L'idée, c'est de valoriser l'humain d'abord, puisque chacun d'entre nous, avec son expérience, avec son passé, a des aptitudes qui sont généralement transposables dans différents métiers. Et donc l'idée, c'est de pouvoir déjà faire connaître notre métier qui n'est pas si connu que ça, et de pouvoir faire visiter l'entreprise et d'expliquer que grâce au savoir-faire et au savoir-être de nos équipes en place, on peut accompagner à la montée en compétences de gens qui sont pas du tout issus de notre métier et de l'aquaculture. Mais par contre, la pugnacité, l'assiduité, la protection de l'environnement, le travail avec l'animal aussi, puisque lui, avant tout, c'est un animal, c'est des valeurs qui nous sont chères. Et après, c'est juste un brin de curiosité, un brin d'envie, un brin de motivation. Et ça, je pense que chacun l'a en soi.
Combien de postes à pourvoir là, dans les semaines à venir, et sur quel type de poste aussi?
Alors, principalement sur des postes d'ouvriers ostréicoles pour travailler dans nos nurseries et aussi sur le parc. Évidemment, il faut avoir quand même une bonne condition physique. Je pense que quand même ça, c'est important de le dire. À peu près une quinzaine, à la fois sur les sites vendéens, mais aussi normands. Et puis pour ceux pour qui l'aventeur pourrait les tenter, on a aussi des postes disponibles sur Jersey. Alors ça peut être un moyen de développer son niveau d'anglais. C'est aussi une capacité, une possibilité. On a aussi des postes à pourvoir dans l'assistanat de transport et logistique sur les fonctions support.
Alors dernière information, aujourd'hui vous sortez un nouveau site internet justement relié à l'emploi, dédié à l'emploi, nous-choisir.fr. On n'a pas France Naissin dans le titre.
Non, parce qu'en fait aujourd'hui ce qui nous semble important, c'est effectivement la relation que crée le collaborateur avec son entreprise. Et aujourd'hui, il faut être juste, on le sait tous, c'est pas une nouveauté. Aujourd'hui, on est plutôt en situation de plein emploi en Vendée. On sait que c'est plutôt le collaborateur qui choisit son entreprise plutôt que l'inverse. Et donc, on avait envie, grâce à ce site, nous-du6choisir.fr, que vous puissiez nous connaître, de connaître nos valeurs, qui on est. Et même quand les huîtres nous dégoûtent, eh bien, on peut venir travailler chez France Naissin, parce qu'on n'est pas obligé de les déguster.
Vous avez un petit encart. Hein. Vous n'aimez pas les huîtres, c'est pas grave. Vous avez le droit de pas aimer. Donc, nous choisir.fr, voilà, c'est déjà en ligne, hein, donc pour découvrir des métiers, peut-être un nouveau recrutement.
Ah, effectivement, il existe d'ailleurs beaucoup de gens chez nous qui ne mangent pas de huîtres et qui travaillent pour nous.
Voilà,
c'est important.
Vous avez le droit.
Très bien.
Une grande liberté. Mais écoutez, il est 13h, je vous remercie infiniment, hein, Stéphane Angéry et puis Laurence Bayer-Rousseau. Vous allez repartir vers Boin, où un très beau site à découvrir aussi, et qu'on peut découvrir donc à l'occasion du 30 mai pour cette phase de recrutement.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci. Belle journée. Belle journée à tout le monde.
Belle journée à vous.
En podcast, évidemment, comme à chaque fois, dans quelques petites secondes. Voilà, vous allez pouvoir écouter tout ça tranquillement de chez vous. Demain, vendredi, les rendez-vous de midi.
Avec l'école de l'Alliance à Chalon qui participe cette semaine à la semaine des appels. C'est la deuxième fois, et des défis et actions éco-responsables pour les élèves. Mais aussi demain, un grand marché qui va être ouvert à tous dans la cour de l'école. Donc on recevra le directeur Hervé Rocan. Et puis un des parents d'élèves, justement, très impliqué, Yann Bourasso.
Demain, joli programme, donc à ne pas manquer, 12h35 sur 9 dans les rendez-vous. 2 midi, l'info il est 13h, juste après pour la musique, vous avez rendez-vous avec Robbie Williams et Eddie de Préto et on se retrouve à 16h évidemment sur Neuve pour la bonne nouvelle.